Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Page 758, le dictionnaire Le Petit Robert démarre par le mot « fanfreluche ». Pour se clore, page 759, sur le verbe « farder ». Entre les deux, il y a une ribambelle de substantifs, d'adjectifs, d'adverbes. Cela va de fangeux à fantasme, de fantastique à faquin, de fantôme à faramineux, de pharo à farceuse. Nous, on cherchait juste la définition du mot « fantaisie » pour introduire notre émission, parce que c'est de cela que nous voulions parler avec notre invité, la fantaisie de l'acteur. Nous ouvrons aujourd'hui un chapitre de plus d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui puise dans l'imagination, l'extravagance, la folie, la volonté, l'originalité et l'imprévu, de quoi être le plus fantaisiste de tous les arts.
Le principal, hein, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur. Surtout en famille. Ça, c'est la vésicule qui se coince, le côlon qui se noue et la rate qui s'engorge. C'est mauvais pour le teint.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous sommes avec Anémone. Bienvenue. Bonjour Anémone.
Bonjour.
Le principal, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur, affirmiez-vous en 1987 dans une fiction diffusée sur France Culture. Vous vous en souvenez ?
Aucun souvenir.
C'était une fiction qui s'intitulait Reine de beauté. Ça n'a pas laissé de traces.
Rien, je me souviens de rien.
C'est pas toujours facile de dire ce qu'on a sur le cœur. Est-ce que vous y arrivez, vous ?
En général, ça sort tout seul, hein.
C'est vrai ?
Quand j'en ai gros sur la patate, oui, ça sort.
Ça vous a valu parfois de vous faire retoquer, de dire ce que vous aviez sur le cœur ?
Ah oui, ça m'a valu de solides inimitiés.
Et est-ce que ça vous a aussi empêché d'avoir des rôles au cinéma ou au théâtre ?
Je crois que oui. Je m'en fous, je me barre.
Alors, vous êtes jusqu'à 16h avec nous. Embrigadée, Anémone, par la grâce du petit Robert, entre les mots fanfreluche et fardée. Je trouve que c'est assez joli pour, au fond, dire entre quoi et quoi se situe l'acteur. On pourrait dire qu'il se situe entre le costume et le maquillage, et qu'entre les deux, il se passe beaucoup de choses.
Moi, j'aimais beaucoup les déguisements quand j'étais petite, quand j'étais jeune aussi, d'ailleurs. Et puis, la barbouilla, c'est pas... je préfère la coiffure, on peut mieux bouquiner avec la coiffure qu'avec la barbouilla.
C'est quoi la barbouilla, Anémone ?
Le maquillage.
Ah, c'est le maquillage ?
C'est la barbouille.
C'est quelque chose que vous n'aimez pas, le maquillage ?
C'est les yeux. J'aime bien bouquiner parce que je m'emmerde. Et donc, les yeux, on ne peut plus bouquiner, quoi. Parce que la bouche, on peut.
Est-ce que vous diriez que l'acteur est à la fois fantasmatique, fantastique, fantomatique, faramineux, pharo, farceur ?
Ah bon, tout ça ?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Aucune idée. Pharo ? Ouais, ça dépend desquels, il y en a. Fantasmatique, pourquoi donc ? Oui, c'est vrai, ils veulent toujours faire des selfies, on doit les faire fantasmer.
Farceur.
Farceur, heureusement, il y en a, oui. Puis jusqu'à un âge avancé.
Vous l'êtes pas mal, vous, farceuse.
J'aime bien les farces, ouais.
Est-ce que vous avez aimé être actrice, Anémone ?
J'adorais ça au début. Et puis à partir du moment où je suis devenue connue, ça a commencé à sérieusement moins m'amuser parce qu'on vous jetait le scénario à la gueule, les costumes aussi, et on passait son temps à parler pognon, ce qui m'emmerde profondément.
Mais vous avez été connue très tôt ?
Non, très tard.
Avec Splendide dans les années 70, ça remonte.
Ah non, mais on n'était pas connue. Justement, on se marrait beaucoup. Non, moi j'ai été connue en 82. J'avais déjà 32 ans.
Vous trouvez que c'est tard ?
C'est pas très tôt. 32 ans, c'est pas très tôt.
Et vous trouvez qu'après ça, vous n'avez pas pu faire votre métier comme vous vouliez le faire ?
Non, parce que ça parlait plus que de pognon, il n'y avait plus que ça. Le pognon et la promo. Moi, j'avais fait ça pour être artiste et pas pour pognon-promo, non. Et donc, pognon-promo, moi, ça me gave.
Alors, si j'ai posé la question au passé, Anémone, avez-vous aimé être artiste? C'est que vous avez annoncé que vous tourniez la page de ce métier, vous prenez votre retraite.
Ah ouais.
Et votre dernière apparition sur scène sera donc cette pièce que vous interprétez actuellement au Palais des Glaces, aux côtés de Denis Scherrer qui l'a écrite,
ouais,
et de Pierre-Jean Scherrer qui la joue avec lui et vous sur le plateau. Cette pièce est mise en scène par Anne Bourgeois, c'est Les Nœuds au mouchoir, une pièce où vous interprétez le rôle d'une vieille dame atteinte d'Alzheimer. Ouais. Pourquoi est-ce que vous arrêtez, Anémone? Vous pourriez continuer, ne pas la prendre, cette retraite.
J'en ai ras-le-bol, j'en ai absolument ras-le-bol, ça fait longtemps. Mais maintenant, j'ai enfin de quoi vivre sans bosser.
Vous n'avez plus de plaisir?
Ah ben non, ils me longent toute la clique, là, ce festival de Cannes, ça m'a complètement coupé le plaisir.
Mais le théâtre, c'est pas le cinéma, c'est pas pareil.
Ça devient un peu pareil, pognon, entrée, audimat, machin, fait chier.
Deux blancs, deux jaunes, le midi, et trois jaunes, un blanc, le soir.
Non, mais c'est une omelette qu'il a dû me prescrire. C'est moi qui l'ai mis au monde.
Oui.
Et pourquoi?
Bah comment ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça.
Oh, mais quelle horreur! Et qu'est-ce qu'elle en pense, sa mère?
Maman, il n'y a qu'un Jean, enfin, c'est ton Jean, c'est ton Jean à toi! C'est ton fils!
Bon, mais puisque tu le dis, si tu le dis, ok.
Ton fils aîné, même!
Ben, moi, on ne dit jamais rien à moi.
Maman, t'as eu deux enfants, t'as eu deux fils.
Ben, vous gardez ça pour vous. Non, mais j'aimerais bien être mise un petit peu au courant de temps en temps, hein.
Il y a des choses de votre cru dans cette pièce, Anémone?
Quelques-unes, ben oui, forcément, parce que dans les grands classiques, on n'improvise pas, mais dans ce genre de théâtre contemporain, oui, quand on a une connerie qui vous vient, on la sort.
Et on déstabilise le partenaire dans ces cas-là?
Ça dépend, quelquefois j'arrive à les faire rigoler, ouais.
Mais les faire rigoler, ça c'est pas très grave, mais s'ils ne savent plus quoi faire en face de celui qui improvise...
Non, c'est quand je trouve une vanne, je sors la vanne, et puis s'ils s'y attendent pas, ils rigolent, puis voilà.
Vous avez eu des camarades de jeu avec qui l'improvisation était vraiment une stimulation sur le plateau?
Mais au Splendide, c'était tout à l'impro, alors ça c'était Charles Vanel qui m'expliquait qu'il y a deux façons de travailler. Il y a à la canne, au canevas... C'est l'improvisation, donc on a un canevas et puis on improvise dessus. Et puis à la brochure, et ça c'est le classique et on se tient au texte. Et le Splendide, en particulier le Père Noël est une ordure, c'était typiquement du travail à la canne. Au début, le canevas, il faisait une demi-heure. Et puis quand on a commencé en scène, ça faisait 1h10. Donc on avait déjà fait 40 minutes en plus en répétition. Et puis on a encore fait une demi-heure en scène. Parce qu'on improvisait comme des fous.
Et vous ne saviez pas où vous alliez, au fond, quand vous improvisiez? Ça partait?
Ah, c'était très rigoureux, on avait droit, quand on trouvait une nouvelle vanne, on avait droit à 3 coups. Alors si au bout de 3 coups, on n'avait pas le rire derrière, on était prié de supprimer.
Qu'est-ce qu'elle demande, la comédie, comme qualité à l'acteur? Le boulevard, qu'est-ce que ça demande comme qualité à l'acteur? Comme don,
boulevard,
comme prédisposition, Anémone?
Le sens de l'humour, je crois, déjà. Et puis, le sens du comique, ça ne s'explique pas. Je crois qu'on l'a, on ne l'a pas.
C'est quoi le sens du comique, Anémone? Vous qui l'avez, visiblement.
Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas ce que c'est un instinct. On ne sait pas pourquoi. Moi, quand j'étais gamine, ma mère disait que ma sœur avait de l'humour et que moi, j'étais comique. Mais moi, j'étais très vexée quand on rigolait, parce que moi, j'étais vachement sérieuse. Et puis, puis un jour, j'ai compris que voilà, je faisais rigoler. Je ne savais pas trop pourquoi. Mais qu'après tout, c'était pas mal, puisque c'était bien payé.
Ça, c'est de l'humour ou c'est pas de l'humour?
C'est comme ça que je vois les choses.
Non, mais c'est vrai que toujours vous avez ce petit décalage dans ce que vous dites où on se dit, est-ce qu'elle sort une vanne ou est-ce qu'elle est sérieuse, Anémone?
Non, moi je suis basiquement plutôt sérieuse comme fille.
Ouais.
Ouais, mais je crois que j'ai une façon de voir les choses qui fait marrer les autres.
On dit que les comiques sont souvent au fond des clowns tristes. Est-ce que c'est vrai?
Oh, je me souviens, j'avais tourné avec Didier Bourdon, je prenais le petit déjeuner avec lui. Ce garçon est complètement dépressif. Non, moi je crois que j'aime rigoler dans la vie. Je crois que ça dépend des gens.
Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors? Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.
Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaïeu de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera.
Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, vous ne risquez pas de vous tromper.
Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles.
Est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir, ce Père Noël est une ordure, Anémone?
Non, c'est un bon souvenir, parce qu'on a beaucoup, beaucoup rigolé quand même. On a beaucoup, beaucoup... Bah si, c'était... En plus, c'est très drôle.
Pourquoi est-ce que cette pièce, elle continue à plaire aux jeunes générations?
Parce que je crois que c'est très drôle. Et quand c'est vraiment très drôle et bien vu, ça vieillit pas.
C'est une pièce culte aujourd'hui.
Oui, c'est devenu un film culte, une pièce culte, ouais.
Vous la regardez quand elle passe à la télévision?
Je l'ai revue plusieurs fois et c'est vrai que ça continue à faire rigoler. C'est assez féroce.
C'était osé pour l'époque?
Ben, sans doute, puisque on a été interdit d'affichage dans le métro quand même.
Ah oui?
Ah ben oui, on rigole pas avec le Père Noël, ça rapporte trop d'argent. Donc le Père Noël n'est pas une ordure, puisque c'est un grand moment de la consommation. Alors le métro voulait pas entendre parler de ça. Et on n'avait pas le droit d'insulter le commerce. Hein.
Est-ce que la farce, la comédie, le boulevard, lorsqu'on le joue, c'est une question pour l'acteur de tempo, de rythme, ce qui se passe pour lui en scène?
Ah, il y a de ça quand même, parce que par exemple, Fédo, qui est très dur à jouer, Fédo, on commence très vite et on n'arrête pas d'accélérer jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment une question de rythme, oui.
C'est une question d'oreille aussi, de prêter l'oreille à ce que dit le partenaire pour pouvoir enchaîner immédiatement?
C'est assez instinctif hein, comme truc.
Le jeu, pour vous, est instinctif?
Ouais, oui.
Vous n'avez pas travaillé pour être comédienne?
Si, j'ai beaucoup travaillé, mais par exemple, j'ai travaillé, c'est vachement dur de pleurer sur commande, de rire sur commande, c'est encore plus dur que de pleurer. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé, mais... On dit vis comica incarnation, c'est-à-dire c'est de l'instinct. C'est de l'instinct, ouais.
Jour ordiné de notre enfance, où nous disions maman, papa, jour de
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
En 2010, vous avez mis en scène une opérette. On l'entend actuellement.
Madame Angot, c'est la fille de Madame Angot. C'est entre l'opéra comique et l'opérette, à vrai dire. C'est pas franchement. C'est entre les deux.
Ça a été, je crois, votre seule mise en scène.
Pourquoi? Ah oui, je le regrette parce que j'ai adoré faire ça.
Mais pourquoi vous n'avez pas recommencé, Anémone?
Alors j'ai été interdite de faire les Lumières, ça paraît qu'il a très mauvais caractère, il est connu pour ça, Ligier. Parce que je crois qu'il aurait voulu que je fasse quelque chose de burlesque, mais enfin c'est pas Offenbach, Leclerc. Et pour moi, Madame Angot, c'est pas du burlesque, c'est du champagne. Donc j'avais travaillé avec Dominique Borg au costume, hein, parce que c'est une très jolie époque qu'on n'a pas beaucoup en plus, qui est le directoire. C'est, au costume, c'est vraiment extrêmement joli. Et puis Dominique Borg a une grande... Donc on avait plutôt opté pour... Alors j'avais un décor comme ça, très stylisé, très épuré, de Jean Haas. Et puis des costumes très réalistes et très élégants de Dominique Borg. Et je crois que ça a été jugé comme trop classique. Parce que maintenant, j'ai l'impression, j'en sais rien, mais j'imagine. Parce que quand je vois que maintenant à l'opéra, tout est toujours transposé, de préférence sous le nazisme. Et je crois que moi, je suis plutôt admiratrice de Strehler que de Savary à la mise en scène. Mais je sais pas, les histoires de mode, j'en sais rien, je suppose.
Vous aimez que les choses soient dans l'époque où elles ont été écrites, restent dans l'époque où elles ont été écrites quand on les met
oui,
en scène.
Oui, moi j'aime autant parce que je trouve que si on veut faire des trucs contemporains, il y a qu'à prendre des textes contemporains.
En même temps, des fois la transposition, ça permet de faire dire à une œuvre quelque chose que elle ne dirait sans doute pas ou moins si on la laissait dans son jus.
Oui, c'est pas systématique. C'est vrai que moi j'avais pas mal travaillé sur Bérénice de Racine. Et que elle, je la voyais en moukère, avec les voiles, les trucs, les broderies, enfin moukère moyen-oriental. Et lui, je le voyais en marine états-unien, le costard blanc là avec la casquette et tout. Donc effectivement, c'était un genre de transposition. Mais sans quoi, non, j'ai tendance à bien aimer que les trucs soient dans leur époque. Par exemple, Attali, moi, si j'avais eu à mettre en scène Attali, je l'aurais fait un péplum, carrément.
Il faut dire aussi, je crois, Anémone, que vous aimez beaucoup les costumes.
Oui.
que quand vous étiez petite fille, vous vous rêviez princesse.
Ah, oui.
Et donc, il y a quand même chez vous ce goût-là hein, pour le vêtement.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Le déguisement.
J'aime le costume d'époque et j'aime la mode. Oui, j'aime beaucoup tout ça. Et les bijoux, j'ai même fait un peu de gémologie.
Et la mode, vous avez même pensé à aller y travailler?
Oui, parce que à un moment donné, je me disais, mais il faut que je me barre de là, j'en ai marre de ce monde, du star system qui me fait chier à mort. Il faut que je change de métier. Et puis je m'étais dit, tiens, mon autre passion, c'est la mode. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si je veux fuir les requins de la finance, c'est peut-être pas le schmatas la meilleure idée. Et donc, finalement, je me suis barrée, j'ai fait de la réessai, et puis voilà.
Est-ce que quand on est étiqueté comique, on est enfermé dans un genre dont il est difficile après de se sortir, Anémone?
Moins aujourd'hui, mais à l'époque, oui. Parce que dès qu'on disait comique, pour une fille, ça voulait dire laideron, ça, obligatoirement. Après, ça voulait dire vulgaire. Et ça voulait dire ne sait faire que ça, alors que c'est pas vrai. Tous les acteurs comiques peuvent jouer dramatique. L'inverse n'étant pas vrai du tout. Il y a certains acteurs dramatiques qui finissent par arriver à savoir jouer comique, mais ça leur prend du temps, et alors que tous les acteurs comiques savent jouer dramatique. C'est... Parce que le comique, c'est deux opérations, mais on part du dramatique, et puis on rajoute un petit truc. Donc c'est fastoche d'en enlever une couche. Tandis que si on n'a pas compris les mécanismes du comique, et qu'on est juste dramatique un peu, c'est-à-dire, moi j'ai envie de dire au ras des pâquerettes, on ne sait pas faire. Hein.
En même temps, le comique, ce n'est pas une recette, hein. Qu'on applique.
Non, je crois que ce qu'on a, on est comme ça. Hein.
Vous êtes né comme ça, vous?
Ouais, je crois. Oui.
À votre corps défendant.
Ben oui, parce que moi au début j'aurais préféré être une vraie princesse qu'on prend au sérieux. Puis dès que je l'ouvrais, tout le monde rigolait. J'étais vexée comme un pou.
Mais vos parents, ils étaient drôles?
Non, pas particulièrement. Non, je ne sais pas d'où ça vient.
Le concept de maturité se fonde sur quoi?
Mais ce concept se fondait sur une certaine façon d'envisager la vie de l'homme, avec des étapes, où on s'épanouissait, on grandissait progressivement, on acquérait le maximum d'expérience et de savoir à un certain âge, puis on passait à la vieillesse et on mourait. Tandis que maintenant, c'est plus du tout ça, il n'y a pas d'évolution progressive, on voit que les hommes, quand ils sont engagés dans des professions qui exigent certaines connaissances, bien sont obligés de se recycler, comme on dit, de façon périodique. C'est-à-dire, rien n'est définitivement acquis. Comme s'il fallait toujours tout refaire, parce qu'on est toujours désynchronisé ou décalé par rapport au niveau d'acquisition du moment.
Alors l'homme, on le dit, est un enfant. Est-il raisonnable de vouloir jouer aux adultes?
Bon, en chacun de nous, il y a toujours un enfant qui survit d'ailleurs, heureusement, parce que c'est peut-être... dans cet enfant qui survit en nous, que nous puisons toutes les forces créatrices et les forces d'imagination. Et il ne faudrait pas étouffer en nous tout cet aspect enfantin.
Mais certains refusent pourtant tous leurs souvenirs d'enfance et même d'adolescence, tout cela parce qu'ils croient que c'est un recommencement ou un commencement.
Oui, ou parce que l'enfance est considérée comme un état inférieur qui n'a pas une grande valeur dans une civilisation où tout est au niveau du savoir scientifique, de la capacité technique, et où on méprise un peu certaines valeurs, si vous voulez, non rentables et gratuites, hein, tel le jeu, telle la création sans but, pour le plaisir.
L'homme qu'on vient d'entendre, Anémone, c'est votre papa.
C'est marrant parce que j'ai pas reconnu sa voix au début.
C'est André Bourguignon.
Oui, oui. Moi, j'ai cru que c'était Finkielkraut. J'ai pas du tout reconnu sa voix. Je trouve qu'il est mort il y a longtemps. Hein.
L'extrait date de 1974. Il était interviewé par Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie.
D'accord.
Il était psychiatre. Votre père, il travaillait dans le domaine de la neurophysiologie et c'est intéressant ce qu'il vient de dire sur la persistance de l'enfant dans l'adulte et le fait que finalement certaines valeurs, comme il le dit, non rentables et gratuites sont mal tolérées par d'autres. Il parle de la création pour le plaisir, du jeu. On a l'impression qu'il parle un peu de vous finalement.
Je sais pas. Oui, c'est un honnête homme. Mais... on est dans une drôle de société, c'est très étrange cette obsession du pognon. On entend comme ça, et le but de l'entreprise c'est de faire du profit. Ah bon ? Ah bon ? Je croyais que le but de l'entreprise c'était participe à la prospérité générale, on va dire. Non, c'est de faire du profit. Mais, mais comment peut-on penser? Par exemple, la publicité, parce que tout est basé sur la publicité. Mais moi, je suis désolée, la publicité. Il n'y a que l'État qui a le droit de vous tirer du fric dans la poche, ça s'appelle l'impôt, sans vous demander votre avis. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, la publicité, sinon ça? Mais oui, mais sauf que, comme elle n'a pas le droit de prélever l'impôt, ça s'appelle du racket. Bah, le racket, normalement, c'est puni par la loi. Ben non, ben, et alors, s'il n'y avait pas la publicité, vous payeriez vos journaux beaucoup plus cher. Non, mais attends, naturellement, on ferait des économies sur tout le reste, alors on aurait peut-être les moyens d'avoir une presse libre. C'est hallucinant, cette espèce, cette distorsion comme ça du raisonnement. Maintenant, le pognon, mais attendez, le pognon, ça se mange pas en salade, ça n'existe même pas. Non, mais c'est vrai, ça fait pas partie du réel, c'est la planche à billets, on fait tourner, puis voilà, c'est même plus de l'or maintenant, donc ça n'existe pas, le pognon.
Vous avez été marquée par mai 68, Anémone ?
Oh, je me suis marrée, moi j'étais gamine, hein, j'avais 17 ans, et sur les barricades, on s'est vachement poilé. J'avais un copain, je crois que c'était Rugy-Lussac, comme les CRS envoyaient des grenades lacrymogènes. Il avait pris la raquette de tennis et bang, il a envoyé. Oh ben je sais pas, moi j'étais gamine, je trouve que c'est une grande récré.
Vous n'avez jamais eu peur de prendre la parole quand vous aviez des combats à mener, ce qui est quand même assez rare dans ce métier où les acteurs sont plutôt un peu taiseux sur leur positionnement. Vous allez au front.
Ben ouais, j'étais écolo moi. Et c'est vrai, tant qu'il y avait de l'espoir de pouvoir prendre une autre direction, on aurait pu, en s'y prenant il y a 40 ans, éviter la crise écologique dans laquelle on est maintenant. Et là, c'est que le début. Et on ne l'a pas fait, quoi. Et donc, ah oui, je crois que c'était à l'époque où j'ai commencé à parler d'écologie, c'était très, très mal porté. Hein. Moi, ce qui me faisait le plus rire, c'est quand on nous traitait de Cassandre. J'avais envie de dire, mais attendez, vous... Il faudrait lire votre mythologie, parce que Cassandre, elle avait reçu le don de prophétie d'Apollon, et puis comme elle n'avait pas voulu payer en nature, elle lui avait craché dans la bouche. Il n'était pas content. Mais il ne pouvait pas lui retirer le don de prophétie. Donc il l'avait condamnée à n'être jamais crue. Elle allait partout en disant que Troie allait choir. Personne ne la croyait, mais Troie a chu. Donc c'était ridicule de nous traiter de Cassandre.
C'est votre frère, Claude, oui. Bourguignon, qui est agronome.
Bah oui, c'est lui qui a ramené ça, parce que quand il était petit à l'école, il faisait de l'ornithologie les jours de congé, quoi. Et donc, ce sont les ornithologues qui ont été à la pointe du combat écolo, parce que c'était le printemps silencieux de Rachel Carson en 62 ou 3. C'est les premiers, et ils voyaient disparaître leur sujet d'étude à grande allure, hein. Donc c'est les ornithologues les premiers qui se sont branchés là-dessus. Et donc lui, comme il faisait de l'ornithologie, il a ramené l'écologie à la maison. C'était assez simple à comprendre. On peut pas rêver d'une croissance permanente de la population, des besoins de chacun, de la consommation de chacun, etc. sur une terre qui n'est plus en expansion depuis quand même déjà longtemps. Et apparemment, c'était très compliqué à comprendre.
On s'est un peu éloigné du théâtre, Anémone. Je voudrais qu'on y revienne parce que il me semble, et cette impression a été confortée quand je vous ai vue dans Les Nœuds au mouchoir, interpréter cette vieille dame atteinte d'Alzheimer. Il me semble que peut-être le théâtre français est passé à côté d'une Anémone qui aurait été très à son aise dans des rôles plus tragiques, plus dramatiques. Je parle du théâtre. Hein. Est-ce que c'est votre avis ?
Oui et non. Non, je regrette beaucoup de ne pas avoir joué Agnès, mais ça c'est un rôle comique.
Dans L'École des Femmes ?
Ah ouais, parce que ça, je me serais éclatée, régalée. C'est Gianni qui l'a joué, moi. Gianni aurait été une Juliette formidable, mais elle n'a pas joué Juliette. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé jouer Bérénice. Bon, j'ai plus l'âge, ça fait longtemps. Mais oui, Bérénice, c'est un rôle dramatique. Et ça, je regrette de ne pas avoir joué Bérénice.
Ouais. Oui, mais il peut y avoir des rôles qui vous attendent. Si jamais vous décidiez de ne pas prendre votre retraite, je ne sais pas.
Non, j'ai plus envie.
Dans Shakespeare ?
Non, j'en ai marre.
Chez Tchekhov ?
Non, j'en ai marre.
Non, il n'y a rien à faire. On ne vous fera pas revenir sur votre décision ?
Non.
Et la Comédie Française ?
J'aurais bien aimé rentrer à la Comédie Française aussi, puis ça ne s'est pas fait. Bon, ça ne s'est pas fait. Hein. J'aurais adoré. J'aimais beaucoup jouer les classiques, et puis. J'aurais adoré jouer Toinette du Malade. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait, puis c'est la vie.
Par contre, vous avez joué Frosine,
ouais.
Dans L'Avare, mise en scène par Roger Planchon. Mm. Qu'est-ce que vous avez compris ou appris au contact de Roger Planchon, qui était un grand metteur en scène?
Ah ouais, moi j'adorais Planchon.
D'ailleurs, vous l'avez retrouvé au cinéma.
Non, c'est le contraire. On a commencé par le film et puis après, on s'est retrouvé au théâtre. Et mais c'était non seulement un très grand metteur en scène, mais un très grand acteur aussi. Et qu'est-ce que j'ai appris sur Contact ? Je regardais, quoi. Je regardais, j'adorais la mise en scène de Lavar, c'était merveilleux. Et c'était des fermes qui se levaient comme ça, puis premier acte, on était sur l'avant-scène, et puis au fur et à mesure que les fermes se levaient, le plateau s'approfondissait. C'était très beau.
Est-ce que dans la construction de votre parcours, il y a eu pour vous des modèles, des figures auxquelles vous vous êtes référé ? Je ne sais pas, par exemple, je pense à quelqu'un comme Jacqueline Maillan, par exemple. Est-ce qu'elle a pu vous inspirer ?
Ah, moi, j'adorais Jacqueline Maillan, mais non, elle ne faisait pas partie de mes modèles.
Vous aviez un panthéon à vous, intime, personnel ?
Ouais, Michel Simon. Et parce que ce que j'admirais chez Michel Simon, j'ai eu la chance de passer 10 jours entre ses pattes. C'était un tournage, j'avais une réplique, mais bon, c'était assez long à tourner. Et ce que j'admirais beaucoup chez Simon, d'abord, premièrement, il a pu tourner les pires merdes, il était toujours excellent, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, être excellent dans une merde, pour moi, c'est un grand critère. Et puis, il se baladait socialement avec une souplesse incroyable. Il pouvait vous faire un grand bourgeois, il pouvait vous faire du sauver des eaux, c'était toujours aussi crédible. Et voilà, quoi.
Mais ça s'appelle de la composition, ça, Anémone.
Le personnage de Thérèse dans le Père Noël, ça, c'était une composition. J'ai pris une vieille tante à moi, j'ai travaillé sur modèle. J'allais la voir 3 fois par semaine, elle n'a rien compris. Et je prenais des notes, et je pompais, je faisais tout comme elle faisait, quoi.
Donc, vous observez ce qui se passe autour de vous, et ça vous nourrit.
Ah oui. J'ai passé très longtemps aux terrasses du bistrot à regarder marcher les gens.
Vous êtes une contemplative ?
Ouais, je suis plutôt du genre flemmard à rêvasser, oui.
Est-ce que aujourd'hui que vous ne vivez plus à Paris, je crois que vous vivez à la campagne, vous trouvez justement dans la campagne, dans la nature, les mêmes motifs de contemplation ?
Ben moi, ce qui me plaît dans la nature, c'est qu'on voit le ciel. Et dans le ciel, il y a plein d'oiseaux. Et à Paris, on ne voit plus le ciel, il y a des buildings qui le bouffent. Non, mais c'est vrai, il y a des toutes petites portions de ciel, on voit très peu d'oiseaux. Enfin, si, maintenant, il y a des mouettes et des choucas, ce qui est bizarre. Quand j'étais petite, il y avait des pigeons et des moineaux. Alors, si, il y a des pigeons, mais ils sont complètement cloportes. Il n'y a pratiquement plus de moineaux. Et puis, on a des mouettes. Mais comment elles sont arrivées, les mouettes ? Puis, des corneilles. C'est bizarre, hein. Oui, mais bon, le bordel écologique, il y a des espèces qui en profitent. Il y a plein de rats à Paris maintenant, plein de rats. Il n'y avait pas.
Ou peut-être qu'on les voyait moins.
Non, il y en avait, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Il y a des espèces qui disparaissent, et il y en a d'autres qui prolifèrent.
C'est très sérieux chez vous, cet engagement pour l'écologie. Hein, pour
l'environnement. Non, mais maintenant que c'est foutu, je m'en fiche. Hein.
Ah, ça aussi, vous vous en fichez ?
C'est foutu, c'est foutu.
Mais alors, qu'est-ce qui encore aujourd'hui... Elle va être faite de quoi la vie d'Anémone après le théâtre et après le cinéma ?
Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien.
On se quitte avec Amy Winehouse, que vous aimez beaucoup. Anémone, en vous remerciant vivement d'être venue au micro d'une saison au théâtre et en rappelant que les nœuds ou mouchoirs, texte de Denis Scherrer, joué par vous-même, Denis et Pierre-Jean Scherrer, c'est au Palais des Glaces jusqu'au 31 décembre. Et même, vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Alexandre Dang, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture. Restez à l'écoute et surtout vous, Anémone, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine consacré à l'environnement et à l'écologie de cause à effet.